RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Le sport au cœur de la foi. Avec cette semaine comme invité Blaise Bagila, qui est coach de vie, coach de motivation. Bonjour Blaise.
Bonjour Joël.
Alors Blaise, vous habitez en Belgique, vous êtes diplômé d'un master en sciences de gestion obtenu à Liège, et vous êtes aussi coach mental, coach de vie. Vous écrivez des livres, et là vous avez écrit dernièrement un livre qui est sorti en novembre 2016, donc c'est tout frais. Coacher votre langue. Comment vous est venue cette idée d'écrire ce livre?
Alors, tout d'abord, il faut commencer par juste parler de l'idée d'écrire, tout simplement, parce que c'est tout frais pour moi. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, je dirais, une passion que je ne connaissais pas, qui était d'écrire. Et en fait, à partir de l'année passée, j'ai remarqué que j'ai toujours aimé écrire. Donc j'écrivais des choses personnelles, et puis c'est en parlant avec une amie qui m'a dit: mais pourquoi tu ne te lancerais pas dans l'écriture? Et donc c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans ce monde de l'écriture que je ne connaissais pas. Et puis en y réfléchissant, voilà, des amis m'ont dit que tu aimes bien encourager les autres, tu aimes bien en fait le domaine du coaching, donc pourquoi ne pas écrire quelque chose dans ce domaine-là? Et en réfléchissant, voilà, c'est comme ça que je suis venu avec les différents livres, dont ce dernier qui s'intitule « Coacher votre langue ».
Et est-ce que c'est par rapport à ce que vous vivez dans le monde du sport, parce que vous êtes aussi donc entraîneur de football, vous êtes détecteur de jeunes talents, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que c'est tout cet environnement aussi qui vous a motivé à écrire un livre sur « Coacher votre langue » ?
Oui, tout à fait, parce que comme vous l'avez dit, surtout le domaine du coaching pour moi m'a énormément appris. Le fait de voilà d'entraîner tous ces jeunes, en fait, j'apprends énormément sur moi, mais aussi sur les autres. Et pour moi, c'est tellement important de vraiment bien cerner ce métier du coaching. Qu'est-ce que c'est exactement, et comment est-ce qu'on peut retirer le meilleur de son équipe, par exemple. Et un des exemples, c'est d'apprendre justement à les motiver, donc apprendre à trouver les paroles justes qui va les booster. Et donc c'est un peu dans cette optique là que j'ai aussi que j'ai écrit ce livre, en effet.
Et vous écrivez dans votre livre, vous faites un guide très pratique, comme par exemple vous lancez un défi à vos lecteurs de ne plus dire de grossièreté, de gros mots pendant 40 jours. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre témoignage personnel à ce propos? Parce que vous êtes vous-même appliqué les conseils que vous donnez aux autres.
Ouais. Alors, en fait, ça c'est un défi personnel que je m'étais lancé moi quand j'étais un peu plus jeune. Parce que il faut que j'avoue que c'était pas évident pour moi de... En fait, j'avais grandi dans un environnement avec des amis, et c'était pas toujours évident de... En fait, j'étais toujours entouré d'amis qui disaient à longueur de journée des gros mots, et puis pour moi, c'était devenu une norme, tout simplement. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas vraiment moi, et je me disais, mais comment est-ce que je peux faire pour changer cela, pour parler différemment? Et je me suis lancé ce défi en me disant, voilà, pendant 40 jours, tu vas essayer de changer ta façon de parler, de ne plus utiliser un seul gros mot ou propos insultant, et voir ce que ça peut changer dans ton environnement. Et je dois avouer qu'au départ, c'était difficile, parce que c'est pas évident quand on est habitué de parler d'une façon et puis du jour au lendemain de changer, c'est pas évident. Mais voilà, au fur et à mesure, j'ai vu qu'au fur et à mesure des semaines, voilà, ça devenait automatique chez moi, et puis étrangement, ça attirait, ça m'attirait aussi d'autres amis, peut-être. Ça commence à changer mon environnement, tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais proposer ce défi, peut-être que ça peut aussi être un bénéfique pour d'autres.
Vous êtes toujours dans l'émission Le sport au cœur de la foi avec comme invité Blaise Bagila. Dans votre livre Coacher votre langue, on voit que vous utilisez des passages bibliques pour illustrer votre propos. Est-ce que c'est un livre qui est destiné tout public ou qui est fait pour les chrétiens?
Alors, je dirais comme ça, évidemment, moi, je me suis basé sur mon expérience, c'est-à-dire que étant chrétien, du fait que aussi j'ai appris énormément de la Bible, parce que ce livre contient pour moi beaucoup de choses positives qui m'ont permis d'apprendre énormément. Je voulais partager justement quelques versets qui m'ont beaucoup parlé. Et c'est clair que pour tout celui qui souhaite, justement, qui est un peu intéressé par certains passages de la Bible qui parle de positivité, je trouve que cela pourrait leur être bénéfique. Maintenant, c'est clair que peut-être que certains diraient que ce n'est que pour les chrétiens parce que je mentionne quelques versets bibliques. Maintenant, je pense que c'est un message pour tout le monde parce que c'est important pour chacun d'apprendre à coacher les paroles qui sortent de sa bouche. Et le fait que j'utilise la Bible, simplement, c'est parce que pour moi, il y a énormément de choses positives à tirer de ce livre.
Et donc, vous parlez que vous êtes chrétien. Vous avez cheminé dans cette démarche spirituelle. Est-ce que il y a eu un élément déclencheur qui vous a fait vous tourner vers le christianisme?
Alors, évidemment, je dirais mon histoire est un peu longue, mais pour essayer d'un peu l'expliquer, moi j'ai grandi plus dans le domaine du football. Donc, je suis arrivé d'Afrique, du Congo principalement, à l'âge de 10 ans ici en Belgique. Et donc très tôt, j'étais vraiment dans le football. Moi, le football, c'était mon objectif, et puis après un certain moment cet objectif n'a pas pu être atteint, et j'ai passé un moment où j'étais vraiment à la recherche de moi-même. Donc j'étais assez perdu au niveau de mon identité, je me connaissais pas du tout, et puis j'ai subi beaucoup de rejets, surtout par rapport aux paroles, et j'étais vraiment détruit au fond de moi à cause de toutes les paroles que j'avais reçues quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est vraiment une rencontre personnel avec Dieu, dans laquelle j'ai vraiment reçu des paroles audibles, je dirais, dans lesquelles il a vraiment confirmé qu'il m'aimait. Et ces paroles-là m'ont vraiment redonné une identité de moi-même, m'ont permis de me retrouver, de savoir qui je suis, de savoir que je suis aimé, que je ne suis pas un accident, que je suis là parce que Dieu a un projet pour moi. Et en fait, c'est ce cheminement qui, aujourd'hui, des années plus tard, me permet d'être épanoui dans ma relation avec Dieu, que je découvre chaque jour, en fait.
Et comment vous avez entendu ces choses audibles? Est-ce que vous avez eu l'occasion de côtoyer une église? Comment s'est passé concrètement ce cheminement?
Ouais. Alors oui, donc moi j'ai grandi dans une famille qui allait à l'église, et moi très très jeune, je dois avouer que j'étais pas vraiment intéressé par l'église, parce que pour moi c'était d'abord le foot avant tout. Donc moi les dimanches mes parents allaient à l'église et moi j'allais au football. Et puis un jour ma mère a vraiment insisté pour que je vienne, et puis bon, comme je voulais qu'elle me laisse un peu tranquille, je suis allé quelques fois avec elle à l'église. Et je dirais peut-être la première semaine où je suis allé à l'église que réellement il y a eu, en fait, quand je suis entré dans l'église, il y a eu je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un homme qui était en train de parler. Aujourd'hui je sais que c'est un pasteur qui parlait de Dieu, et pendant qu'il parlait, j'ai vraiment senti au fond de moi une voix qui me parlait et qui me disait Blaise, tu es au bon endroit, je t'aime, et qui confirmait beaucoup de paroles que je n'ai pas le temps de tout détailler, mais c'est vraiment ce moment-là à l'église, évidemment, qui a changé ma vie. Mais aujourd'hui, au-delà de l'église, c'est surtout cette relation que j'ai quotidiennement avec Dieu qui me permet de me découvrir au quotidien.
Et vous avez écrit, Blaise, aussi votre premier livre qui s'appelle « Vos mots m'ont tué ». Est-ce que c'était quelque chose, justement, une sorte de psychanalyse pour vous aider à rebondir, puisque vous avez été victime d'harcèlement scolaire? Vous nous avez dit tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, ça a été très dur. On imagine un harcèlement dû pour des propos racistes. Est-ce que le sport, et notamment le football, a été une voie salutaire pour vous?
Ah oui, tout à fait. Vraiment, là, c'est vraiment l'expression exacte, parce que quand je suis arrivé, déjà moi je suis arrivé en me disant l'Europe ça va être c'est un peu, je dirais, un peu le paradis comme ça, parce que je venais d'Afrique à cette année-là, en 94, on a quitté, il y avait encore un peu la guerre et j'avais vécu des moments difficiles en Afrique parce que je n'avais pas connu mon père qui était lui ici en Europe. Donc c'était un peu difficile, et en arrivant ici je m'attendais à être accepté, justement je me disais je vais avoir de nouveaux amis, je vais découvrir un nouvel environnement. Et malheureusement, ça s'est assez mal passé parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été rejeté bizarrement à cause de ma couleur de peau. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, je ne parlais pas non plus le français. Et donc, ça n'aidait pas vraiment mon intégration non plus. Donc, c'était beaucoup de moqueries pendant les heures de cours ou même à la cour de récré. C'était vraiment une période d'humiliation, je dirais, c'était vraiment difficile. Et heureusement qu'il y a eu le foot, parce que j'ai grandi, moi, j'ai été formé dans un club où il y avait peu, je dirais, il y avait énormément de joueurs étrangers, si je peux dire comme ça. Donc là, ça m'a permis de peut-être me retrouver dans un environnement que je connaissais, où je me sentais accepté. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi. Je me suis découvert, j'ai redécouvert à rigoler avec mes amis. Je me suis fait énormément d'amis, dont certains aujourd'hui sont au niveau professionnel. Et voilà, c'est vraiment une période qui m'a permis de me découvrir. Le football pour moi a été, d'une façon comme d'une autre, quand même salutaire. Ouais.
Et aujourd'hui, le talent que vous cherchez à développer le plus, c'est l'écriture. Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire, et quel est le message principal que vous voulez communiquer?
Alors aujourd'hui, l'écriture que je dirais que je suis encore en train de découvrir aujourd'hui m'apporte énormément, d'abord personnellement, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti et l'écriture me permet vraiment d'exprimer beaucoup de choses qui sont au fond de moi. Et actuellement, ce qui me tient à cœur par l'écriture, c'est d'aider beaucoup de jeunes à découvrir leur talent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi détecteur de talent dans le milieu du football, parce que ça me tient à cœur de voir des jeunes qui aujourd'hui ont du mal à se trouver, qui ont du mal à réaliser qu'ils ont des capacités que Dieu leur a données. Et pour moi, au travers de mes écritures, j'ai envie de les encourager à se trouver, à trouver leur identité, et aussi à trouver leur talent et à se rendre compte qu'ils sont là avec pour un but bien particulier qui peut faire la différence.
Où est-ce que l'on peut trouver votre livre « Coacher votre langue » ?
Alors, le livre qui vient tout justement de sortir est déjà disponible sur commande dans toutes les librairies. Il suffit de le commander dans une des librairies de votre choix. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, ou bien directement via mon éditeur Eddy Livre.
Merci beaucoup Blaise Bagila, c'était le sport au cœur de la foi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre entretien où on parlera davantage de votre rôle de détecteur de jeunes talents dont vous avez fait référence en cette fin d'interview. Je vous souhaite une Merci très bonne beaucoup. Soirée, je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, le sport au cœur de la foi. Je reçois pour une deuxième partie Blaise Bagila. Bonjour Blaise.
Bonjour Joël.
Alors la semaine dernière, vous nous avez expliqué votre parcours où à l'âge de 10 ans, vous avez quitté le Congo pour arriver en Belgique et vous avez fait face au harcèlement scolaire, aux remarques racistes, aux injures et aux insultes. Et vous nous avez expliqué que le sport a eu un rôle salutaire dans votre intégration. Et aujourd'hui, vous avez un rôle encore dans le sport où vous entraînez des jeunes, mais vous êtes aussi recruteur ou scout, comme on appelle ça. Et sur votre site, vous marquez que vous êtes détecteur de jeunes talents. Donc on voit que c'est très positif. D'où vous est venue cette passion et qu'est-ce qu'un détecteur de jeunes talents ?
Je commencerai par la passion, parce que ça, c'est assez simple. Du fait que que le football soit, je dirais, un sport qui m'intéresse énormément, puisque moi-même j'y ai joué. Du fait d'avoir côtoyé et de côtoyer encore beaucoup de jeunes qui sont passionnés par ce sport, j'ai été tout simplement attiré par le métier du coaching, donc d'entraîner une équipe de football. Et puis aussi, le fait que moi-même, je vois mon parcours, comment je me cherchais personnellement et aussi même parfois sur le terrain, comment je cherchais cette identité de moi-même, de me connaître sur le terrain, ça m'a poussé à vouloir devenir recruteur ou détecteur de talent. Alors, détecteur de talent, c'est quoi ? Il faut savoir qu'ici en Belgique, on fait quand même une petite distinction entre un détecteur de talent et un scout, si je peux dire comme ça. Le scout, c'est vraiment celui qui va aller chercher des statistiques bien particulières sur un joueur par rapport à un match particulier. Donc, par exemple, regarder le nombre de passes qu'un joueur a fait, le nombre de buts qu'il a marqué, le nombre de kilomètres qu'il a couru, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment du scouting. Alors que la détection de talent, c'est vraiment une sorte d'évaluation à long terme. C'est-à-dire qu'on va regarder un joueur sur plusieurs matchs, ça peut être parfois sur un mois, deux mois, et on regarde par rapport à certaines compétences qui ont été définies par l'Union Belge de football, par rapport à ces compétences-là, où se place le joueur, et est-ce que ce joueur est un futur potentiel talent. Et donc c'est ce que je fais régulièrement, c'est d'aller sur voir plusieurs matchs et de suivre plusieurs joueurs. Ça fait déjà certains joueurs, je les suis pendant des mois. Et ce qu'on essaie de voir, c'est de voir comment est-ce que ce joueur, s'il est peut-être mis dans un autre environnement, peut exploiter les capacités qu'il a en lui. Donc voilà un peu comment je suis arrivé dans ce domaine de la détection de talent.
Alors la semaine dernière et encore aujourd'hui, vous évoquez la question de l'identité chez le jeune, chez le footballeur aussi. Quelle est votre identité justement et comment la connaissance de cette identité a bouleversé votre vie ?
Alors évidemment, quand j'étais plus jeune, donc je ne savais pas déjà du fait, comme j'ai dit, je suis arrivé très jeune à l'âge de 10 ans ici en Belgique. Je n'avais pas connu mon père, parce que lui, il était venu ici en Belgique directement. Donc, il me manquait déjà le côté de mon père pour essayer de m'asseoir, de m'expliquer un peu qui je suis, moi, Blaise Bagila. Et quand je suis arrivé et que j'ai été rejeté aussi dans mon école, je me disais encore une fois, qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi est-ce que les gens me rejettent ? Est-ce que c'est mauvais que je sois noir ? Est-ce que c'est mauvais que... Et quand je suis entré dans le football, je cherchais mon identité dans le sens de quelle est ma place, moi, dans cette équipe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et je crois que aujourd'hui, après autant d'années, mon identité, je la définirais comme je suis un enfant de Dieu, parce que je crois que j'ai été créé par Dieu. Et je suis ici pour accomplir un but particulier que Dieu m'a donné. Et le fait que je puisse écrire tous ces livres, le fait que je puisse être dans la détection de talent, confirme en fait cette identité que j'ai de quelqu'un, de cet enfant de Dieu qui est aimé par Dieu, qui est pardonné et qui est là pour aider les autres justement à trouver leur voie, à trouver aussi leur identité. Et pour le domaine du football, ce que j'essaie de dire toujours aux jeunes, c'est que c'est important de se trouver sur le terrain, Parce que quand on sait se trouver sur le terrain, on comprend quelle est je dirais, sa tâche. Et une fois qu'on connaît sa tâche, c'est encore plus facile je dirais, de donner le meilleur de soi-même dans son équipe.
Vous êtes toujours dans l'émission Le sport au cœur de la foi avec comme invité Blaise Bagila. Alors, quel est l'impact aujourd'hui de vos livres justement dans le monde du sport? Vous êtes en relation avec plusieurs footballeurs, vous avez écrit des livres, notamment le dernier, Coacher votre langue, hein, donc avec le mot coacher. On sait que le pouvoir de la langue est terrible, et notamment dans le monde du football, avec les commérages, les rumeurs, les insultes, les propos racistes. Justement, est-ce que vous voyez un changement à travers ces livres? Comment ils sont-ils reçus dans le milieu du...
Je commencerai d'abord peut-être par le premier livre, « Vos mots m'ont tué ». Alors, j'étais assez surpris parce que quand je l'ai proposé à certains, justement, à certains joueurs de football que j'encadre, etc., certains, en lisant ce livre, sont venus me voir pour me dire « Mais en fait, en lisant ça, je me rends compte que moi aussi, j'ai subi quelque chose. Moi aussi, en fait, je m'identifie. J'ai peut-être pas vécu la même chose que toi à l'école, mais j'ai subi la même chose, que ce soit dans mon club de foot ou que ce soit même dans ma famille. Donc, en fait, ça a réveillé un peu l'intérêt chez eux. Et d'autres m'ont dit, je me rends compte aujourd'hui que si je n'arrive pas peut-être à bien jouer dans mon équipe, c'est aussi parce que parfois mon coach ou mon entraîneur me parle de telle façon, ou à chaque fois il me rabaisse, à chaque fois il me dit ceci, et je me sens en fait un peu parfois harcelé par mon entraîneur, et je n'arrive pas à sortir tout ce qui est au fond de moi. Et donc, il y a eu vraiment cette interpellation au niveau de certains joueurs, et beaucoup sont venus me voir, ou beaucoup m'ont écrit en me disant que ils se rendent vraiment compte que de l'impact des paroles, comme vous venez de le dire, que c'est important. Il y en a aussi qui m'ont dit que le fait que les entraîneurs les encouragent au quotidien, mais ça leur permet d'encore pouvoir se surpasser. Donc, je vois au quotidien, en fait, que les gens sont assez réceptifs, et surtout les jeunes sont réceptifs, et ils se rendent compte qu'ils vivent des réalités et qu'ils ont parfois besoin d'une parole d'encouragement pour leur permettre de s'en sortir.
Alors, vous êtes aussi entraîneur de football. Vous avez passé vos diplômes avec la Fédération belge. Comment, justement, votre foi chrétienne a impacté vos motivations et la manière et votre pédagogie pour encadrer ces jeunes? Et quels conseils vous donneriez à un entraîneur qui se lance aujourd'hui?
Alors, je dirais que moi, je suis un entraîneur qui débute, donc je n'ai pas encore énormément d'expérience derrière mon dos, mais je dirais, moi, et ça va peut-être être assez drôle pour certains, mais je suis en tant qu'entraîneur, j'ai comme modèle, je dirais, Christ pour moi est comme un modèle, parce que ce qui est assez étrange, c'est que lui avait aussi une équipe. Il avait ses 12, si on peut dire comme ça. Et la manière dont lui, je dirais, il approchait son équipe, la manière dont il encourage voilà, ses disciples, la manière dont lui, il gère cette équipe, je dirais, m'encourage beaucoup. Et c'est un peu un modèle pour moi. Et j'essaye, moi, quand j'entraîne mes jeunes, d'essayer de mettre en pratique la même chose, d'essayer de leur parler de façon positive, d'essayer de même prier pour eux. Je le fais, je prie pour chacun de mes joueurs. J'essaie de leur faire comprendre quelle est leur place à chacun dans l'équipe. Donc voilà un peu comment moi j'essaye petit à petit. Je ne suis pas encore, parce que je ne suis encore qu'au début. J'apprends énormément d'autres entraîneurs aussi à qui j'ai la possibilité de poser quelques questions. Donc moi, je dirais, un conseil que moi je donnerais peut-être à ceux qui débutent, en tout cas, c'est d'essayer, en tout cas, de vraiment encourager les jeunes et de leur expliquer quelle est leur place dans l'équipe. Moi, je trouve qu'une des choses qui manque parfois dans différentes équipes, et je le vois quand je vais voir beaucoup de matchs, c'est que beaucoup de joueurs se cherchent encore sur le terrain. Ils ne connaissent pas absolument ce qu'on attend d'eux. Et c'est assez difficile quand vous ne savez pas ce que votre entraîneur attend de vous, de donner le meilleur du monde.
Dites, que vous avez des rendez-vous avec plusieurs joueurs de football ou vous partagez aussi autour de vos livres. Ça me rappelle un petit peu moi ce que je fais en tant qu'aumônier chrétien auprès de sportifs de haut niveau. Comment vous situeriez justement votre travail? Est-ce que vous sentez proche d'un travail d'aumônerie ou est-ce que plutôt proche du courant en ce moment qui se développe de la pensée positive et d'accompagner tout type de sportif pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel? Ou aussi comme le travail de l'aumônier, de découvrir qu'il est un être profondément aimé par Dieu.
Je pense que en vous entendant dire ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se relient l'un l'autre. Je ne connais pas personnellement vraiment beaucoup le métier de l'aumônier, mais je crois que il y a beaucoup de choses qui se relient. Je pense que pour moi, au final, l'aumônier a beaucoup de caractéristiques que je retrouve chez les coachs. Et pour moi, en tout cas, mon objectif, c'est d'être dans cette, pas seulement dans cette pensée positive, mais surtout dans cette pensée positive, si je peux dire chrétienne, qui me pousse à comprendre que je suis créé par Dieu justement, que j'ai de la valeur et que chacun d'entre nous a de la valeur. Et je crois qu'en tant que, voilà, dans le métier de l'aumônerie, il y a aussi cela qui ressort. Donc pour moi, les deux métiers, j'ai envie de dire, ils sont un peu proches. En fait, au final, voilà, vous êtes aussi un peu un coach spirituel, si je peux dire, pour ces personnes que vous encadrez. Et donc moi, je tends vraiment vers ce coaching, pas seulement physique, pas seulement mental, mais aussi
Et justement, dans votre livre, Qui n'a peur d'identité, vous abordez les questions de la peur, de la honte, sûrement de la culpabilité aussi. Comment, justement, l'autorité qu'il y a en Jésus-Christ, que l'on peut recevoir à travers la prière, est développée dans ce livre? Comment vous abordez les choses, justement, et est-ce que vous avez expérimenté des choses spirituelles, parce que vous parlez d'être un coach spirituel, aussi dans le monde du football, auprès de sportifs?
Oui, tout à fait. Et là, vous avez donné, par exemple, un très bon exemple en parlant de la peur, parce que c'est, pour mon cas, par exemple, la peur, c'était vraiment, pour moi, je considère que c'était vraiment un géant dans ma vie. C'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas, dont je n'arrivais pas à me débarrasser tout seul. Et c'est vrai que, il a fallu vraiment que je demande l'aide de Dieu pour qu'il puisse enlever en moi, justement, je dirais, ce géant qui se tenait devant moi et qu'il mette en moi cette assurance que, voilà, s'il me dit de faire quelque chose, je peux y arriver avec sa force. Donc, je dirais, dans ce livre, je parle de comment est-ce que, justement, Dieu peut donner la force de découvrir ce qui est caché en nous, de découvrir, de faire sortir ce qui est caché, que ce soit par la peur ou que ce soit même par les expériences douloureuses du passé, qui est un autre exemple que je donne aussi. Parce qu'on peut avoir subi des expériences dans le passé qui étaient assez douloureuses et qu'on n'ose plus faire certaines choses. Et justement, encore une fois, là, encore une fois, Dieu donne cette force de sortir du passé et que même si hier était difficile, aujourd'hui, il permet justement que ce soit un autre jour. Donc, il donne la force de continuer. Donc, je dirais, dans ce livre-là, j'essaie encore une fois de faire le parallélisme entre comment Dieu vraiment au quotidien peut nous aider à surpasser que ce soit la peur, la honte, la culpabilité aussi, comme vous l'avez dit, parce que quand on est dans la culpabilité, c'est pas évident de se relever, mais justement de savoir que voilà, avec Dieu, il nous pardonne, Dieu nous pardonne et Dieu nous donne la force de recommencer à nouveau. Et c'est vraiment, ça me donne vraiment beaucoup d'espérance, ça me donne vraiment beaucoup d'encouragement, de savoir que voilà, dans tout ce que nous faisons, Dieu est toujours avec nous.
Je vous encourage à aller chercher ces livres sur Internet. Vous pouvez les retrouver chez Amazon. Et aussi, vous avez un blog, il me semble, blaisebagila.com.
Exactement, exactement. Oui, j'ai un blog dans lequel j'essaie de partager c'est une sorte de motivation chrétienne, voilà, sur des sujets, de tous les jours.
Merci beaucoup Blaise, c'était le sport au cœur de la foi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur les ondes RCF Alpha.